Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dimanche un peu matinal. J'ai pas trop mal, mais nous avons changé d'heure. J'espère que vous avez bien réglé vos réveils, même si ça n'existe plus de rêver les réveils. Maintenant, les téléphones intelligents font tout. Donc il est 9h06, vous écoutez RMC et nous allons passer la matinée ensemble jusqu'à midi avec un très beau programme. Au sommaire, dans quelques instants, l'OM sombre à Reims, 4e défaite en 5 matchs depuis la crise sur l'arbitrage, les Marseillais n'y arrivent plus. Le Corruption Gate a-t-il tout cassé? Ce sera la une des GG dans quelques instants. Eric Dimeco viendra participer à notre débat. À 10h, le projet NBA Europe qui a pris un peu plus d'épaisseur cette semaine. On va tout vous expliquer. Alors les GG, j'aime pas ce projet, ce sera le bras de fer. Donc à 10h et puis 11h, Donald Trump face à la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Le président américain va bientôt accueillir les deux plus grands événements sportifs de la planète. Faut-il s'inquiéter? Je vous poserai cette question, on ouvrira le débat. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Nicolas Sarkozy, il adore les bijoux, hein, boucles d'oreilles, les bagues. À quand les bracelets? Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde. J'aime beaucoup les bracelets, j'en porte, mais moi je les porte au poignet, tu vois, pas à la cheville.
Bah, c'est la mode pourtant.
Bah, écoute,
Bon, après tu fais ce que tu veux, mon cher.
Mais si on peut s'en procurer, je suis preneur éventuellement pour cet été. Qu'est-ce que vous faites tous dans ma chambre là?
On est très heureux d'être avec toi. Ça va, Simon?
Je suis ravi, évidemment, ouais. Jean-Christophe.
Bon, et puis quand t'es là, ça veut dire que.
Que Christophe n'est pas là, voilà.
Que l'on l'embrasse, évidemment.
L'embrasse.
De toute façon, il nous écoute pas, il a fait la fête hier soir. Une grande gueule qui, comme Nicolas Sarkozy, elle n'a pas toujours passé le premier tour. Sarah Pitkovski, salut Sarah.
Salut à tous. Salut, si Sarah. Ça m'est arrivé.
Oui,
si, ça m'est arrivé régulièrement.
Tu dis, elle n'a pas toujours passé le premier tour.
Ouais, ouais. Non, mais je pensais que tu allais faire un lien avec les joueurs de l'OM.
Oui.
Ouais, oui. Non, mais parce que je suis comme Greenwood, je reviens, mais j'espère que moi je vais rester, tu vois.
Ah oui, oui, oui.
Je pensais que t'allais faire un.
Très bien, pas du tout. Pas
non,
du tout.
Bah non.
Je suis parti sur autre chose. En plus, je sais qu'on accueille quelqu'un dans cette émission qui le connaît bien, donc je me suis dit que ça allait lui faire marrer. Ou pas du tout. Donc je vous présente tout de suite une grande gueule qui, contrairement à Nicolas Sarkozy, lui, savait se défendre, David Douillet. Salut David!
Ah, comment ça va? La vie est dure.
Oh là là.
Je t'ai senti souffler déjà depuis le studio RMC. Ça va, mon David?
Ouais, ça va.
Qu'est-ce non,
ça
va bien. C'est le changement d'heure qui.
Oui, c'est le changement d'heure qui est délicate.
Ah là là, je l'ai pris en pleine tête. Je me suis réveillé en catastrophe. J'ai sauté dans mon short. Je suis arrivé. J'ai branché les appareils. Et me voilà, mais je suis en forme, vous inquiétez pas, je suis là, je serai présent.
Très bien, déjà on est rassuré, ça veut dire que t'es en short. Ça veut dire que t'as pris le temps de t'habiller pour nous, mon cher David, et on va passer une grande émission.
Ah, je l'ai peut-être enlevé,
Ah, me fais pas rêver, me donne pas envie de venir à Bourg-en-Bresse.
Ah, je sais.
Et puis une grande gueule qui, comme Nicolas Sarkozy, c'est pas la taille qui compte, Fred Veil, salut Fred.
Salut.
Ça va, mon frère?
Ça va très bien.
J'ai l'impression que ça fait une éternité que t'as pas fait cette émission.
J'ai cette impression aussi.
Ouais, ouais.
Mais non, en fait.
Non. C'est que tu nous manques aussi.
Mais vous manquez
ça
tellement.
Ça va, Fred, la NBA Europe, c'est un débat pour toi, ça?
Ça me plaît.
Ouais, Donald Trump, c'est un débat.
Ça me plaît pas.
Toi qui as posé un pied aux États-Unis puis qui a dû repartir.
Oui, voilà.
Ça doit te dire quelque chose.
Ça me dit quelque chose, ouais, okay. Effectivement.
Bon, on va en parler en tout cas dans cette émission. Évidemment, pour y participer, c'est le 32-16 et forcément, ce matin, on attaque avec l'OM.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est le cauchemar marseillais du moment. Dominé, ce n'est pas gagné. 1-0 pour le Stade de Reims après 29 minutes. Le but de Keito Nakamura. Et le deuxième but du Stade de Reims, Simon, le deuxième but du Stade de Reims de Mamadou Diakon.
Très vu, c'est orienté.
Et l'Olympique de Marseille est en train de creuser très profond. But ridicule encaissé par l'Olympique de Marseille.
Corruption.
Tangana qui arrive dans la surface de réparation. Le 3-0. Pour le Stade de Reims.
Corruption dans un championnat de merde.
L'humiliation absolue pour les Marseillais. 3 tirs et moi, 3 buts.
C'est championnat, c'est corruption.
Et c'est terminé. Le Stade de Reims a humilié l'Olympique de Marseille.
Quelle corruption, c'est la corruption totale.
Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille, défaite 3-1.
Et c'est un événement ce matin. Pour la première fois depuis le 1er décembre dernier, l'OM n'est plus le dauphin du Paris Saint-Germain. La faute à une 4e défaite en 5 matchs en Ligue 1. Les Marseillais ont coulé, vous l'avez entendu hier après-midi à Reims. Et Adrien Rabiot, le capitaine, n'a pas été tendre avec ses coéquipiers au micro du diffuseur DAZN.
Ouais, sur le plan comptable, ça fait mal, mais surtout ça fait mal d'afficher cet état d'esprit-là. On a affiché des objectifs, on en parle chaque semaine, chaque week-end, mais voilà, c'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui ont pas envie de jouer l'Europe, qui ont pas envie de se battre pour connaître ça. Faut se remettre en question, faut savoir ce qu'on veut faire. Il reste 7 matchs si on veut aller en Ligue des Champions. Moi je suis venu pour ça. S'il y en a qui n'ont pas cette ambition là, faut qu'ils le disent tout de suite, faut qu'ils le disent avant les matchs, qu'ils laissent d'autres jouer. La Ligue des Champions, c'est un objectif qui est important pour un joueur de football. Jouer cette compétition là, c'est quelque chose de grand. Il y en a qui l'ont pas joué ici, peut-être qu'ils la joueront jamais. Et je comprends pas qu'on n'ait pas plus faim sur le terrain à l'idée d'aller jouer cette compétition l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout.
Et voilà, c'est tout. Et voilà pour le coup de gueule d'Adrien Rabiot. C'était sur beIN Sport, hein, hier après-midi. Et depuis le 22 février dernier, soir d'Auxerre-Marseille et de l'énorme polémique autour de l'arbitrage, rien ne va plus à l'OM, comme si le feu provoqué par le Corruption Gate lancé par le président Pablo Longoria avait totalement changé la face de la saison des Marseillais. La musique qui fout les jetons. Et cette question, le Corruption Gate a-t-il tout cassé? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Sarah Pitkowski?
En grande partie, oui.
Fred Weiss?
Non.
David Douillet?
Oui, mais il n'y a pas que ça.
Ok, mais j'ai deux oui, j'ai deux non. Avant de débattre et de retrouver aussi Eric Dimeco dans quelques instants, on va retrouver notre envoyé spécial hier à Reims, c'est Aurélien Tiercin. Salut Aurélien.
Salut les GG, salut Aurélien. À tous.
Alors comment les Marseillais sont ressortis de cette fin d'après-midi cauchemar?
Les Marseillais sont complètement sonnés en fait dans l'incompréhension la plus totale, car le même cauchemar a eu lieu il y a un mois à Auxerre avec une défaite 3-0. Et ce scénario commence à agacer fortement Valentin Rongier, le milieu marseillais, buteur hier pour sauver vraiment un tout petit peu l'honneur marseillais.
On peut perdre des matchs de foot, mais quand on est l'OM et qu'on a envie d'atteindre notre objectif qui est d'aller en Champions League, on peut pas se permettre d'avoir une attitude comme ça sur des matchs aussi importants. Que ce soit une équipe de National ou Reims ou le PSG ou notre équipe, c'est la même chose. Il faut avoir cette envie de tuer l'adversaire.
L'entraîneur Roberto De Zerbi a gardé ses joueurs près d'une heure après le match dans les vestiaires. Colère froide du coach italien concernant l'implication de ses joueurs.
C'est une période difficile. Il faut réagir en tant qu'homme, réussir à serrer les dents et continuer avec une envie différente pour se qualifier pour la Ligue des Champions, qui est un objectif encore atteignable. Mais je l'ai déjà dit, la mentalité ne s'achète pas au supermarché. La mentalité que je veux pour mon équipe n'est pas celle que l'on a pour l'instant.
Les dirigeants, Pablo Longoria et Mehdi Benatia en tête, sont restés calmes, mais avec la mine des très mauvais jours, car l'OM a perdu sa deuxième place du championnat ce matin au profit de Monaco. Et si le sprint final vers la Ligue des Champions est très mal lancé, Valentin Rongier préfère ne pas paniquer.
On a cette chance de pouvoir se rattraper. J'espère vraiment qu'on va vite gommer ça et qu'on va repartir de l'avant avec la tête haute, en travaillant surtout et en étant très humble. Parce que là, il faut qu'on fasse profil bas, qu'on se remette à travailler et qu'on montre un visage différent.
Pour se relancer, l'OM reçoit Toulouse au Vélodrome le week-end prochain, mais devra surtout se déplacer à Monaco, nouveau dauphin donc du Paris Saint-Germain. Ce sera dans 2 semaines.
Merci beaucoup Aurélien Tiercin pour ces précisions hier à Reims, hein, et vous l'avez entendu, les Marseillais sont dépités, mais ils veulent encore y croire, ils ont raison encore d'y croire, mais le Corruption Gate a-t-il tout cassé? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, et Eric Dimeco sera avec nous dans quelques instants. On attend évidemment l'analyse de notre expert football, expert marseillais. Mais pourquoi non, Fred Weiss, pour débuter?
C'est simple, parce que pour tous ceux qui ont joué dans un sport collectif, ils se rendront compte qu'il y a plusieurs étapes dans un club. Il y a le président, le directeur sportif qui sont d'un côté entre guillemets, et de l'autre côté il y a les joueurs et le coach. Les joueurs et le coach sont en stand depuis, il ne s'est rien passé pour eux, ça n'a rien changé. On s'en fout ce que disent les présidents, ce que disent les directeurs sportifs, l'important c'est de tirer dans le même sens. Il y a des choses à faire, il y a des choses à vouloir gagner, il y a des choses, des objectifs à atteindre. Et moi je trouve que ce que dit Rabiot, c'est magnifique, c'est exactement ça. Si t'as pas envie de jouer à la Ligue des Champions, ne viens pas, dis, préviens. Mais à un moment il faut arrêter de chercher des excuses, il faut avoir une mentalité de gagnant, faut avoir le niveau, peut-être qu'il faut se poser des questions sur le niveau aussi, et le caractère. À un moment tu perds des matchs, 4 matchs sur 5 je crois qui ont été perdus. À un moment si tu perds ces matchs-là, il faut se rendre compte que t'as pas le droit de faire ça. T'es Marseille, t'es une équipe qui est censée gagner. Tu dois sortir du contexte. Ça me rappelle, j'ai joué à Limoges en l'an 2000, et en 2000 on a eu plein de problèmes, tout en dehors de l'équipe, parce qu'il y avait plus d'argent, parce qu'on n'était pas payé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben on s'est tous regroupés autour de notre coach, qui était notre leader. Et là il faudra peut-être discuter par rapport à De Zerbi, qui est peut-être pas suffisamment leader par rapport à son groupe, mais notre coach était notre leader. On s'en foutait du président, on s'en foutait du directoire, on s'en foutait de tout le monde. On était avec les supporters et on était le groupe de l'équipe qui jouait pour gagner des choses parce qu'on avait du caractère.
Donc ça ça n'a pas parasité, c'est mais pas ça, le petit grain de sable qui a tout enrayé.
Bah si c'est ça, c'est très très grave.
Ok, Sarah Pitkowski. Bah,
je pense qu'il n'y a pas une vérité. Pourquoi j'ai répondu oui? Parce que même si je suis pas totalement convaincue que ça soit la seule et unique raison, je vais essayer de tenter la psychologie de bas étage. Mais moi,
tu vaux mieux que ça, Sarah. Tu vaux mieux que ça.
Oui, mais je vais quand même me lancer. Je pense que ça remonte même avant l'histoire
De la corruption.
De la corruption. Je pense que ça remonte déjà depuis le match de Coupe de France Marseille-Lille. Je pense qu'à partir du moment où à la tête d'un club, tu n'as pas des gens exemplaires, ou en tout cas, il y a friture sur la ligne. Quand je regarde les matchs de l'OM depuis le 14 janvier jusqu'à maintenant, il y a quand même une concordance des temps qui fait qu'on peut pas dire que ça n'a pas d'influence sur l'équipe. Comme par hasard, t'as un Greenwood qui revient, mais qui, enfin, ça fait deux fois qu'il est sur le banc. Il a l'air plus d'être, il est plus du tout concerné par le projet de l'OM. Ils sont même à penser à le vendre. Et puis quand t'as pas les dirigeants qui sont exemplaires, il y a friture sur la ligne. Donc même si on nous dit non, mais ça n'a pas d'incidence, force est de constater qu'il y a une césure dans le club. Peut-être les internationaux et les Français. On a l'impression que Rongier et Rabiot sont plus concernés. Parce qu'ils ont envie de jouer la Ligue des Champions et parce que, comme le dit Rabiot, il y a des joueurs dans ce club qui ne l'ont jamais joué et qui ne la joueront peut-être jamais. Et comme si cette deuxième place, en fait, finalement, elle était quasiment acquise, mais il y avait déjà un verre dans la pomme, mais personne ne s'inquiétait parce qu'on était toujours deuxième, malgré les mauvais résultats. Parce que Monaco, lui, jusque-là, Monaco était aussi un peu tremblotant et donc il ne les menaçait pas. Mais là, ils ont pris le coup près. Voilà.
Et là, maintenant, ils sont troisième.
Et
je le disais, c'est un événement dans notre championnat. On poursuit le tour de table.
Et là, il y a le feu
ensuite,
dans la maison.
On accueille évidemment Eric Dimeco. Simon Dutin, pourquoi non?
Bah, parce que jusqu'à preuve du contrat, c'est ni le président, ni le directeur sportif qui joue sur le terrain, ni qui entraîne. Après le Corruption Gate, comme tu dis, ils ont quand même battu Nantes au match suivant. Sarah faisait référence à ce qui s'est passé à Lille avec le président, entre le président Létan et Mehdi Benatia. Moi, je considère que dans des clubs où il y a cette proverbiale passion, ce feu sacré, les supporters exigeants.
Ouais, mais là, il y a sanction derrière. Hein.
Ça peut mobiliser, créer un sentiment d'injustice et justement te donner un petit élan supplémentaire pour.
Parce que t'as raison.
Quand t'as des joueurs de caractère,
tu pointes le caractère de mecs comme Rongier, Rabiot. Alors Rabiot, il n'a pas été bon hier, mais il faut arrêter les bêtises. C'est quand même des mecs qui t'emmènent investir derrière eux et sur qui tu peux compter. C'est des leaders. Il y a ce deux Herbie Ball qui on a cru après la fessée qu'ils avaient mise à Saint-Etienne que ça y est. Installé, qu'on allait voir un football chatoyant. Non, mais je veux dire, ça met du temps à s'installer. Il y a eu un mercato avec des joueurs importants qui sont arrivés. Je pense qu'Amine Gouiri, il y a un double effet qui se coule parce que depuis Depay, Mopé a disparu un petit peu de la rotation. Il y a un Greenwood qui met plus un pied devant l'autre, alors qu'il était peut-être en sur-régime, qui n'a pas connu quand même de grosses saisons dans un club avec de hautes exigences depuis très longtemps. Donc, il n'est pas interdit de penser que sa baisse de régime est normale. Il est protégé, quoi qu'on en dise, par un De Zerbi qui l'a sorti de l'équipe, mais qui lui a affiché de la confiance. Hier, il doit faire mieux. Encore une fois, il a deux occasions. Il doit mettre deux buts avec son. Là, il y a ce général.
La faute à qui? La faute au joueur.
La faute à une saison qui, avec des hauts, des bas, des blessures. Hein, Højbjerg, qui est le général de cette équipe, qui depuis qu'il est sorti, montre que.
Donc c'est la faute de la saison.
Non, c'est. Ah bah, c'est. On les a peut-être vus trop beau.
On les a peut-être vus trop beau, et moi le premier, mais en tout cas, des équipes dont le président est dans la sauce et qui continuent à performer, on l'a déjà vu. Donc, à mon avis, ça n'a aucune incidence.
Mais regarde les résultats depuis, en fait.
Ah ben oui, là, mais les résultats, 4 défaites en 5 matchs.
C'est un hasard.
Si dès que ton président dérape face au micro, tu perds 4 matchs sur 5 d'affilée, ça va être compliqué pour tout le monde, pas seulement pour l'OM.
Alors, David, avant d'écouter Eric Dimeco, David, il y a François via le Direct Studio qui nous dit le Corruption Gate, c'est l'arbre qui cache la forêt en agitant un chiffon rouge en haut. On empêche de regarder le réel problème. David Douillet.
Ouais, je suis un peu d'accord avec ça, mais on est dans une situation où je suis d'accord avec Sarah. Franchement, les garçons se sont peut-être vus un peu trop vite en dehors de l'affiche et un peu inaccessibles. Et puis le sport les rattrape, la compétition les rattrape, et ils prennent une gifle, deux gifles, trois gifles, et tout le monde se réveille avec 3-1 face à Reims hier soir. Donc voilà. Mais ça peut se reprendre en main. Enfin, il reste, je crois, 7 matchs, il me semble.
C'est ça.
Et donc, la Ligue des Champions, elle est encore là pour eux, parce que je crois que c'est leur objectif. En tout cas, pour le président, en termes financiers, il vaut mieux qu'il la fasse, quoi, je crois. Donc, bon. Après, c'est le groupe. Est-ce que De Zerbi va réussir à ressouder son groupe, à leur redonner de l'appétit? Parce que dans les mots de Rabiot, j'ai senti ça qui prédominait. C'est-à-dire que les types, ça défend à 3 mètres. Ils ont plus d'appétit, ils ont plus la hargne, ils ont plus
Mais ça vient pas du président, justement. C'est ce qu'on dit. On est d'accord, David. Ça vient pas du président. C'est les mecs qui ont plus l'appétit, c'est les mecs qui ont perdu l'ambition, c'est les mecs qui ont pas le caractère. C'est ça le problème.
Tu sais, Fred, c'est pas à toi que je vais apprendre que c'est un tout dans un club. Quand tu vois le président qui dérape, qui déconne un peu, quand tu vois sur le terrain que ça s'amenuise, que l'intensité est moins là, etc. C'est une espèce de globalité, une espèce de, comme disait De Gaulle, une chienlit qui se met en place à l'intérieur d'un club. Et puis voilà comment ça se traduit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas demain quelqu'un qui mette une gifle à tout le monde, qui se réveille, un vrai patron.
C'est le job c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est le job de De Zerbi. Le président finalement, tu ne le vois jamais.
En conclusion, je trouve que De Zerbi est mou du genou, voilà, et qu'il devrait mettre s'il joue à plein son rôle, ça devrait pas arriver.
David, je suis pas d'accord. Moi, je l'ai trouvé très bon en conférence de presse. Après, il est comptable.
Non, mais c'est pas en conférence de presse qu'il faut être bon.
Mais quand il explique, enfin là hier en conférence de presse après le match, il s'adresse directement à ses joueurs lorsqu'il dit la mentalité, ça s'achète pas au supermarché. Il assume ses responsabilités.
Les mecs qui gèrent l'équipe en conférence de presse, David, moi, ça me démonte.
Mais David,
c'est pas en conférence de presse qu'on gère l'équipe.
C'est invendable aux supporters marseillais. Tu vas dire, ouais, notre président, il est dans la sauce, et nous, alors, du coup, on n'arrive plus à jouer sur le terrain. C'est pas possible. Tu ne peux pas justifier une baisse de performance.
En conférence de presse, non, mais peut-être qu'à un moment donné,
en conférence de presse, ni ailleurs. Mais même les joueurs dans leur salle de bain, le matin, ils ne disent pas, ah, Longoria, ça va pas.
On poursuit la discussion.
On poursuit la discussion avec Eric Dimeco, qui est avec nous, évidemment, qui officie toute la semaine dans le Super Moscato Show de 15h à 18h à la télé, en plus. Mais là, il est qu'à la radio. C'est Eric Dimeco. Salut, Eric.
C'est bien la radio, oui, JC.
Ah,
salut,
Eric.
Ouais. Bonjour. JC, salut les GG. Écoute, tu n'avais pas besoin de moi. Tu m'as appelé hier soir, là, mais tu n'avais pas besoin de moi. Dans tout ce que j'ai entendu, il y a la véritable situation de l'OM. Et c'est. Il y a plusieurs raisons. Le truc gate, là, comment tu l'appelais, là?
Le corruption gate.
fait partie, peut-être pas des explications, mais en tout cas, ça montrait qu'il y avait une certaine fébrilité dans un club où on pensait que tout allait bien. On va se faire peut-être un petit résumé de la saison, parce que moi, quand De Zerbi arrive, on connaît sa réputation, on sait qu'il est sollicité, mais en réalité, moi personnellement, j'ai jamais vu 10 matchs de suite de Brighton, par exemple, tu vois, parce que pour connaître un entraîneur à son travail, il faut quand même le regarder plusieurs fois. Donc j'ai observé avec attention son travail, et ce que j'ai aimé, alors que je pensais que c'était quelqu'un de dogmatique, c'est qu'il a vite changé sa compo, voire son équilibre d'équipe. Après, souvenez-vous, c'était déjà au CR, si je me souviens bien, au match aller, où l'OM perd à la maison, et où il se rend compte qu'il a une équipe faible défensivement, et il décide de passer avec une, bon, on va pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais trois défenseurs centraux, et il blende un petit peu son milieu de terrain, et à ce moment-là, il trouve un équilibre, au point de faire une bonne série de résultats qui l'amène à la deuxième place au mois de décembre. Sauf que cet équilibre-là, il est fragile, et donc il y a plusieurs raisons, d'après moi, aux explications pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, moi, je pense qu'il a pas finalement sorti de l'équipe type, il a pas un effectif assez large pour pouvoir interchanger certains joueurs. Il y a des joueurs qui sont trop importants dans cette équipe là et quand ils ne sont pas là, ça pose un problème. On l'a vu avec Højbjerg, qui est pas là depuis un certain temps, et on se rend compte que son équilibre du milieu de terrain est moins bon. Ensuite, je pense que ces histoires d'arbitrage ont commencé quand même bien avant, souvenez-vous. C'était après le match de Lyon au match aller, hein, où ça avait déjà commencé à couiner. Et c'est l'accumulation qui nous a amené jusqu'au mois de janvier à cette explosion, puisqu'il y a eu le match de Lille, Coupe de France, où il y a déjà eu des problèmes. Et puis, cette histoire à Auxerre. Même si, comme je le disais, David disait, c'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Moi, je pense quand même, que contrairement à ce que dit Simon, c'est que un joueur, quand il sort d'un terrain qu'il a perdu, il se cherche des excuses et il cherche des coupables à la défaite. Et bien sûr, c'est jamais lui. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des retours de défaite dans un bus où il y en a deux qui parlent d'un côté, deux qui parlent de l'autre. Et bien sûr, on parle des autres qui sont plus dans le projet ou qui ont été mauvais ou qui nous gonflent, etc. On essaie de décharger toujours. Et cette histoire de fébrilité des dirigeants autour de l'arbitrage, voire même d'explosion, donne une excuse aux joueurs aussi.
Donc, voilà, mais
c'est pas l'explication.
Mais ça aurait pu les souder parce qu'en fait, comme le disait Fred, ils avaient une cible commune finalement à tous les joueurs.
Oui,
ça aurait pu souder un groupe.
Fred, j'espère que dans le basket c'est pareil, ou alors vous êtes un sport parfait, et j'ai du mal à le croire.
Même
dans le basket, je suis sûr que quand il y a une accumulation de défaites, on cherche toujours le responsable.
Jamais, on cherche jamais voilà, chez les dirigeants en fait. On cherche dans le partenaire, mais, dans l'arbitre. Oui, je comprends.
Non, mais moi je te dis pas que c'est dans les dirigeants.
Ça serait sur les dirigeants. On est d'accord.
Oui, mais moi je te dis. Oui, non, je te dis que les dirigeants donnent une excuse aux joueurs, c'est-à-dire que quand tu sors d'un match que tu n'as pas été bon, que tu as perdu, c'est soit le partenaire, soit l'arbitre. Et à ce moment-là, moi je pense que les joueurs ont pensé eux aussi que l'arbitrage était contre eux et que c'était presque une excuse. Je dis pas que c'est la seule raison des échecs, puisque il y a une autre raison, je pense aussi, et que je vais outre la profondeur de banc, comme on dit souvent, la qualité de l'effectif. Cette histoire-là n'a pas fait que du bien et a commencé peut-être à diviser même les joueurs dans le vestiaire, parce que on nous a expliqué aussi que dans les dirigeants, il y en a qui n'étaient pas d'accord sur cette stratégie de taper sur l'arbitrage, parce que on nous a expliqué aussi que c'était une stratégie des dirigeants de ne rien laisser passer au niveau de l'arbitrage, souvenez-vous. Donc, au sein du club, on disait attention, ça peut être contre-productif. Donc ça, c'est aussi un petit grain de sable dans le rouage. Et puis, j'ai quand même l'impression que ce fameux équilibre qu'ils avaient trouvé donc au mois d'octobre, et rappelez-vous, qui avait amené une bonne ambiance, on nous avait expliqué même sur un moment de trêve que les joueurs, au lieu de prendre des jours de repos individuellement, étaient tous partis au Danemark passer deux jours ensemble, tellement que l'ambiance était bonne. Et je le crois très volontiers que l'ambiance était très bonne. Ils gagnaient, sauf que quand les résultats dégénèrent comme ça, c'est qu'il y a une accumulation de petits détails. Et il y a une autre, c'est le recrutement de décembre. Donc on a une équipe qui est équilibrée, qui a de bons résultats, et là, on va changer le milieu de terrain qui était quand même une des raisons du bon fonctionnement, en faisant venir le petit Benacer, qui est sûrement un très bon joueur, mais qu'on aurait peut-être pu intégrer plus petit à petit, et Guiri qui a porté assez rapidement devant et tout. Mais bon, voilà, il y a plusieurs raisons, moi, je pense.
Ok, il y a plusieurs raisons. Et justement, on va aussi se demander si ces déclarations choc, vous l'avez entendu, d'Adrien Rabiot, vont un petit peu ternir cette ambiance au sein du groupe marseillais. À tout de suite sur RMC. Moins de deux minutes, on est de retour avec toute la bande, avec Eric Dimeco, pour parler de l'Olympique de Marseille. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h31, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Simon Dutin et Eric Dimeco qui est avec nous pour parler de l'Olympique de Marseille.
Il est là, David Douillet, ce matin?
Mais oui, il est là, David. Fais très attention, toi. Hein.
Moi, je compatis parce que ça a été dur ce matin pour moi aussi. Hein.
Okay.
En vieillissant, c'est dur les changements d'horaires. Tu sais, dans les maisons de retraite, on essaie rarement de changer les horaires des petits vieux parce que ça les perturbe trop.
Mais je comprends.
Moi, je suis dans ce cas-là.
Mais je ferai attention la prochaine fois, justement, à mettre que des jeunes, que des très très jeunes. 14-15 ans.
10h20, ton rendez-vous plutôt que 9h20.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'il a? Pas aux petits vieux. Qu'est-ce qu'il a, Simon, à m'attaquer?
C'est vrai. C'était une balle perdue.
En pleine paix. En pleine paix, un bourre-pif. C'est quoi cette histoire?
Juste vous dire que dans 10 minutes, Marc Madiot sera avec nous parce qu'il a envie de répondre à Mathieu Van Der Poel.
Voilà, il va nous réveiller.
Exactement, Mathieu Van Der Poel qui a fustigé la Groupama FDJ lors de la dernière course, c'était l'E3, c'était vendredi. Et voilà, Marc Madiot veut lui répondre, ce sera donc dans les GG dans une dizaine de minutes. Mais donc restons sur l'Olympique de Marseille qui s'est incliné hier 3-1, quatrième défaite en 5 matchs pour la première fois depuis décembre dernier. L'OM n'est plus le dauphin du Paris Saint-Germain, l'OM est 3e, toujours en course évidemment pour la Ligue des Champions, mais attention, quelque chose est en train de s'installer. Xavier, supporter de l'OM, est avec nous au 32-16. Salut Xavier.
Bonjour tout le monde.
Vous allez bien? Bah écoute, on va bien. Et toi, comment vas-tu ce matin? Est-ce que le Corruption Gate, c'est notre débat? Est-ce que ça a tout cassé?
Ouais, est-ce que je vais bien? Bah déjà, écoute, là, je suis à mon troisième café. J'essaye de me remettre de ce qui s'est passé hier.
Le changement de rêve?
Ouais,
on compatit.
Ouais, j'aurais préféré qu'on efface carrément la journée d'hier. Ça aurait été bien. Mais parce que non parce que j'appelais directement après le match, j'étais je remercie d'ailleurs le standardiste qui m'a répondu parce qu'il m'a servi de psychologue pendant au moins 5 minutes. Mais non, le Corruption Gate, moi je vais vous dire c'est ça. Ouais, ils sont formés, ils sont bons d'ailleurs, ils sont vraiment bons, mais en fait moi je pense que c'est le Longoria Gate en fait là qui nous explose à la figure. Mais il y a pas que son histoire de corruption. En fait, dans une saison qui était plutôt sereine, on a décidé de se mettre le feu tout seul tout au long de la saison pour cacher le fait que peut-être aussi on a très mal construit l'effectif, pour cacher aussi le fait qu'on a peut-être très mal géré certains cas, puisque quand hier je regarde la défense et que je me dis qu'on joue avec Lirola et Cornelius, alors qu'on a Mbemba, bon, on va pas revenir 10 fois sur Mbemba, j'y ai compris, il faut plus en parler, mais moi j'en parle quand même. On a un mec qu'on paye très cher et qui est certainement meilleur, 10 fois meilleur que les mecs qu'on met sur le terrain en défense, et on prend des buts à chaque fois avec des défenses qui défendent comme des mecs de district. Donc franchement, c'est chaud, c'est super chaud. Alors moi, le Corruption Gate, j'entends, on s'est plaint de l'arbitrage, de ci, de là, de machin. On était deuxième, on avait 10 points d'avance sur tout le monde, et enregistrez bien mon appel, je vous jure, je connais trop ce club. L'an prochain, on n'y sera pas en Ligue des Champions, on n'y sera pas. J'en suis, mais après ce que j'ai vu hier, je vois pas comment on peut y aller.
Bah alors, on l'espère pas pour l'OM. Juste avant d'écouter ta réponse, Eric, on va réécouter ce que dit Adrien Rabiot, parce que maintenant c'est aussi la suite qui nous intéresse. Comment remobiliser ce vestiaire, et est-ce qu'avec ce genre de coup de pression, ça marche? C'était le capitaine hier, Adrien Rabiot au micro de Beansport.
Sur le plan comptable, ça fait mal, mais surtout ça fait mal d'afficher cet état d'esprit là. On a affiché des objectifs, on en parle chaque semaine, chaque week-end, mais voilà, c'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui ont pas envie de jouer l'Europe, qui ont pas envie de se battre pour connaître ça. Faut se remettre en question, faut savoir ce qu'on veut faire. Il reste 7 matchs si on veut aller en Ligue des Champions. Moi je suis venu pour ça. S'il y en a qui n'ont pas cette ambition là, faut qu'ils le disent tout de suite, faut qu'ils le disent avant les matchs, qu'ils laissent d'autres jouer. La Ligue des Champions, c'est un objectif qui est important pour un joueur de football. Jouer cette compétition là, c'est quelque chose de grand. Il y en a qui l'ont pas joué ici, peut-être qu'ils la joueront jamais. Et je comprends pas qu'on ait pas plus faim sur le terrain à l'idée d'aller jouer cette compétition l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout.
Eric, pour commencer, les autres GG, est-ce que ça c'est productif?
Dans certains vestiaires, oui. Vu le mental de ce vestiaire-là, j'ai un doute du coup. J'ai un doute. On verra. Mais juste pour revenir à ton histoire de Corruption Gate, là, moi, je me suis toujours posé la question pourquoi les dirigeants avaient pété les plombs sur cette histoire d'arbitrage. Surtout que le soir où ils pètent les plombs, en réalité, à Auxerre, c'est pas le soir où l'arbitrage est le plus catastrophique contre eux. Contre Lille en Coupe de France, par exemple, j'avais trouvé qu'il y aurait eu peut-être plus à redire. Il y a même eu d'autres matchs bien avant. Voilà. Et donc,
Ouais, mais ça traduit une ambiance. Oui, c'est comme une cocotte
voilà.
minute, en fait.
Non, mais c'est ça. Non, mais les dirigeants, il faut. Nous, on parle par rapport à ce qu'on voit. Des fois, on sait des trucs, mais on sait jamais tout. Un dirigeant, lui, sait tout ce qui se passe dans son vestiaire. Et pour que les dirigeants pètent un plomb comme ça, ou en tout cas pensent que les points perdus sur des fautes d'arbitrage sont aussi importants que ça, c'est que il y avait déjà des tendances, c'est-à-dire que je pense que les dirigeants se sont rendus compte assez rapidement que l'effectif était peut-être pas assez complet, assez fort en cas de pépin pour aller au bout. Ils étaient peut-être tendus, ils se sont rendus compte que l'équipe était moins soudée que ce que nous on voulait bien le dire et que ce que même les joueurs voulaient bien dire. Ils se sont rendus compte que quand tu perds Højbjerg au milieu, voire peut-être Balerdi aujourd'hui, tu vas être en grande difficulté. Cette histoire Mbemba dont parle notre supporter est aussi significatif. Comment, quand tu as autant de problèmes dans une défense que depuis 2 ans, hein, c'est pas 6 mois, hein, c'est comment tu peux te passer d'un garçon qui, même s'il est plus vert comme un jeune fruit là, est tellement important pour ce Balerdi, il a jamais été aussi fort que quand il jouait à côté d'Mbemba. Ou en tout cas, il a fait des progrès à côté d'Mbemba. Quand Balerdi, il est à côté de joueurs qui sont en difficulté ou qui sont pas au poste ou qui sont moyens, eh ben, il redevient moyen. C'est terrible. Et donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ce garçon pour se tirer une balle dans le pied comme ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que, et là, moi, pour finir le débat, et par rapport à ce que dit notre auditeur, moi, je suis très inquiet parce que si tu te passes de Balerdi, Højbjerg, dans cette équipe-là, avec la spirale du moment, je suis très inquiet, alors que vendredi, on a fait un débat où je me suis dit, la trêve internationale a dû faire du bien, les mecs ont dû se recentrer sur le collectif et tout. Et Rabiot, quand il dit ça, c'est qu'il sent que ceux qui ont lâché, ben, ne sont pas revenus depuis. Voilà. Et ça, c'est inquiétant. C'est le plus inquiétant, c'est le discours de Rabiot dans ce que j'ai vu hier.
Ok. Simon.
Moi, j'ai tendance à penser que si les mecs comme Rabiot montent pas au créneau après un match comme ça, alors évidemment, il est encore
qui va le faire.
Voilà, il est quand même aussi venu pour ça et apporter son leadership, même si il y a peut-être un peu de maladresse dans les propos et qu'il va falloir l'assumer auprès des mecs dans le vestiaire.
Non, moi, je pense qu'il a raison. Il n'y a pas de maladresse. Au contraire, moi, si tu rentres pas dedans, ils vont jamais réagir.
Je sais pas aller dans le sens d'Éric. Moi, je pense que, en effet, on a peut-être vu après un début de saison difficile où De Zerbi lui-même s'était remis en question en disant bon, si c'est moi le problème, je peux m'en aller. Alors qu'on était là, bah non, mec, t'es là pour un projet. Au contraire, on veut te laisser le temps de construire. On a peut-être, suite à une série de victoires qu'Éric rappelait, considéré que ça y est, le travail était fait, que cette équipe, elle était partie pour dominer le reste du championnat. La fébrilité des dirigeants affichée, que ce soit par Benassia avec les temps, ensuite Longoria avec les micros qui freinent, peut-être qu'en effet elle dit quelque chose de l'inquiétude, du manque de certitude des dirigeants marseillais.
Tu viens à nous un petit peu quand même là. Ça a forcément une incidence.
Par rapport à la pérennité des résultats.
Une ambiance.
C'est-à-dire, voilà, on nous voit si beau, nous on n'est pas sûr. Il y a eu quand même un gros recrutement qui, avec des joueurs de caractère, Benassia, Guiri, qui prennent de la place, mais qui ont peut-être déséquilibrer un petit peu ce qui était en train de se construire. Moi, j'étais un peu comme Eric, j'étais très optimiste avant le match d'hier, parce que je considère que le match qui perd face à Lens, si tu le rejoues 10 fois, tu le gagnes 10 fois, qu'il y a quand même, c'est pas une équipe qui est en
déconstruction. À Paris, ils n'ont pas fait honte.
Je suis d'accord avec toi. Tout n'est pas à jeter, et je pense qu'il y a des choses à récupérer, mais donc il faut attention
Simon...
à ne pas...
Ouais. Non, mais Simon, il y a, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de positifs autour de l'OM et des perspectives de bons résultats à la fin de la saison par les performances de l'OM, mais aussi par rapport à ce que faisaient les adversaires. Souvenons-nous, pendant que l'OM carburait, Monaco lâchait beaucoup de points, Lyon n'était pas là.
Mais comment t'expliques alors que les Longoria...
Et donc c'est pour ça qu'on était. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que les autres étaient en difficulté, et ça marchait bien, et nous on s'est mis le feu. Et le feu, c'est pas que ce feu-là, je le répète, mais c'est vrai que j'ai du mal à l'expliquer. Attention, dans le foot, il y a pas que du rationnel où on peut pas tout expliquer des fois. L'équilibre de vestiaire, c'est assez fragile, surtout quand tu as les moyens de l'OM. Quand tu as deux joueurs par poste, il y en a un qui est plus dans l'esprit. Quand Greenwood, c'est ton meilleur joueur, il est pas dans l'esprit, tu le dégages. Si tu as le même derrière, ça va. Ouais. Le problème, c'est que quand il y a plus Greenwood, comment tu fais les stats qu'il a?
Il y a quelque chose qui me gêne dans
tout
ça.
Vas-y, David.
Franchement, il y a quelque chose qui me gêne. Je ne sais pas si Simon et Eric vont être d'accord avec moi, mais la sortie de Rabiot, moi, ça me gêne parce que il a raison de gueuler, il a raison de. Mais le faire devant les micros, je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode.
À un moment, tu cherches. C'est difficile de trouver la bonne méthode.
Je crois que ça a chauffé.
Non, mais
ça a chauffé dans le vestiaire.
David.
Tu laves ton linge-sale. En famille, quoi. Parce que sinon, si tu t'étales, d'abord, tu t'exonères de la famille, tu te mets en dehors de la famille, quand tu le dis à l'extérieur, parce que tu dis, voilà, ils ont pas envie d'y aller, ils ont pas envie de se battre, ils ont pas la moelle. Donc, moi, je l'ai, ça sous-entend que moi, je l'ai, et j'en ai marre d'être dans cette équipe. Donc, comment
veux-tu... peut-être vrai?
Comment veux-tu reconstruire? Oui, c'est sans doute vrai. Mais comment
donc, il y a des problèmes de dire la vérité.
L'avenir, lorsque, oui, mais la vérité, elle est bonne quand elle est entre eux. Si tu veux, quand tu veux fédérer le truc. Mais là, c'est public. C'est-à-dire que le mec,
dit, bon, voilà,
il y a Rabiot qui est plus là. Il est parti. Non. Il nous a dit, vous êtes des nazes, allez vous faire voir. Moi, je suis à côté. J'ai envie de faire
la Ligue des Champions.
Vous avez pas envie. Vous êtes des cons. Voilà. Et avec ça, tu construis rien. C'est impossible, franchement,
il faut écouter ce que dit David, parce que vous, en tant que sportif de haut niveau, est-ce que vous avez l'impression que justement, Adrien Rabiot, même s'il est dans son rôle de capitaine, est-ce qu'il n'est pas en train de s'exonérer et que les autres vont lui dire, ok, t'es sympa.
Ça a marché après la défaite. Il était déjà sorti après la défaite face à Auxerre ou Angers.
Non, mais c'est surtout que c'est son job. Alors oui, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment le job qu'il doit faire dans le vestiaire. Il doit communiquer avec eux, parler, citer des noms peut-être, et pointer du doigt certains joueurs. Mais qui s'exonère.
Ça a dû être fait.
C'est pour ça que pour moi, c'est parfait ce qu'il a fait. Il fait cette partie dans le vestiaire qui est en interne, qui pointe des joueurs, etc. Et qui s'exonère. Oui, si lui, il pense que ce qu'il fait, c'est bien, vous faites pas les choses bien, et ça permet à tout le monde de prendre un électrochoc, comme disait Sarah. Et moi, je trouve ça très bien. C'est important.
L'effet inverse, c'est la chasse. Si t'as une équipe de caractère,
t'as pas l'effet inverse.
Ouais, mais c'est ce que
c'est ça la problématique, c'est que je suis pas sûr que cette équipe soit une équipe de caractère. Et donc, voilà, c'est une erreur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça se fait régulièrement. Hein. Des fois, ça a des effets positifs, des fois négatifs, parce que ça dépend de ton vestiaire.
Oui, mais ça se
c'est-à-dire, si t'as des mecs, si t'as des mecs de caractère dans ton vestiaire, ça peut ressouder tout le monde ou en tout cas tendre tout le monde vers le même objectif. Là, quand on m'explique quand même que tu es deuxième, tranquille, et qu'il y a déjà deux joueurs qui sont plus dans le projet ou en tout cas à l'entraînement qui traînent les pieds au point de les mettre sur le banc, alors que c'est ton meilleur buteur, ton meilleur passeur après le meilleur buteur. Là, il y a quand même un problème de mental aussi, quand même, Fred.
Oui, mais dans ton cas, qu'est-ce que tu te dis, Eric? Je suis d'accord avec toi. Le constat.
Non, mais ce que dit.
Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien.
Ce que dit David, il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que quand tu sors dans la presse, tu fais ce genre de sortie dans la presse, ça veut dire que toi, tu es au-dessus des critiques et que les autres sont critiquables. Tu vois, ça peut être problématique. J'espère que ça a été fait dans le vestiaire et d'après ce que j'ai compris, ça a été fait dans le vestiaire. Mais je suis pas sûr que l'effet soit celui que nous pensons, nous, parce que moi j'ai déjà connu des coups de chaud dans un vestiaire, mais dès qu'il y a du caractère, ça réagit. S'il y a pas de caractère, ça peut plomber les mecs, tu vois. Voilà. Je suis inquiet. Hein. Là, ce matin, si tu me dis, je suis inquiet hein, pour la suite.
Ben justement.
Je vois pas si Balerdi est blessé pendant un long moment, Hubert ne revient pas tout de suite, chaud. Hein.
Ben justement, je vous donne le classement. Hein. Évidemment, le Paris Saint-Germain, on en parlera un peu plus tard, qui a gagné 6-1 hier face à Saint-Etienne, est loin devant et donc quasiment. Non, pas officiellement, mais donc vous le savez, champion de France. Monaco, 50 points. Marseille, 49 points. Nice, 47 points. Strasbourg, 46 points. Lyon, 45 points. Lille, 44 points. Et dans deux journées, le 12 avril, il y aura un Monaco-Marseille. Monaco-Marseille. Et évidemment, on rappellera, parce qu'on adore le déranger le week-end, Eric Dimeco. Merci, Eric.
Oui, surtout quand il y a des changements d'heure, volontiers. Ouais. Bon,
émission,
je vous écoute, les gars.
Texto hier, je te l'ai pas dit qu'il y avait le changement d'heure. Hein. T'as vu? Alors,
quand même.
Enfin, tu nous as prévenu ce matin à une heure avant l'émission qu'il y avait le changement d'heure.
Merci mon Eric d'avoir été avec nous.
Bonne émission. Je vous écoute.
Show, évidemment. Dès demain à partir de 15h. Merci à Xavier d'avoir composé le 32-16 supporter marseillais et tu as parlé du Standard, Xavier. Oui, c'est Amina qui vous accueille ce matin. Vous appelez le 32-16. Amina est là pour répondre à toutes vos questions et ensuite vous venez avec nous en direct. Dans quelques instants, Marc Madio va répondre à Mathieu Van Der Poel. C'est quoi cette histoire? Je vais tout vous raconter. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
T'es grand! T'es très grand! Jusqu'au bout, là, c'est la dernière ligne droite. La ligne droite de ta vie, mon enfant!
Les grandes gueules du sport.
Allez, mon grand! La ligne droite pour toi, pour ta famille, pour le cyclisme français, pour les Bretons, tu dois le faire!
Jean-Christophe Drouet.
9h49, Marc Madio, évidemment, notre GG qui va être avec nous dans quelques instants. Également, David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Simon Dutin, ce matin. Alors, pourquoi Marc Madio? Je vous explique tout maintenant. Sachez que dans 10 minutes, à partir de 10h, on ouvre le débat sur la NBA Europe. Ce projet, j'aime pas. Ce sera un 2 contre 2. Ce sera le bras de fer des GG. Marc Madio est avec nous ce matin. Il est sur les routes de Gand-Wevelgem. Salut Marc.
Salut
Marc.
Alors
salut,
pourquoi Marc Madio est avec nous? Eh bien, je vous résume la situation. C'est Mathieu Van Der Poel qui est remonté contre la Groupama FDJ. Alors après,
je suis pas sûr.
Ah, alors tu vas nous expliquer tout ça dans quelques instants. J'explique la situation et puis après tu me dis ce que tu en penses. Après Milan San Remo, Mathieu Van Der Poel a triomphé donc, c'était vendredi sur l'E3, mais le Néerlandais est sorti fâché de cette course. Van Der Poel n'a pas apprécié que certains coureurs accélèrent le rythme en tête du peloton après une grosse chute collective dès le début de l'épreuve. Le peloton a été scindé en deux. Van Der Poel s'est retrouvé à l'arrière. Il a dû fournir, vous l'imaginez, un énorme effort pour revenir. Et le petit-fils de Raymond Poulidor, il a semblé cibler une équipe qui était l'équipe de Marc Madio, qui avait 5 coureurs à l'avant. Voici ce qu'il a dit. C'est antisportif d'accélérer à fond alors que la moitié du peloton est bloquée. Jamais nous n'aurions fait ça en tant qu'équipe. Heureusement, on a réglé le problème à la fin. Marc, vas-y, dis-nous ce que tu penses de la situation.
Alors, ce que je pense de la situation, pour bien l'apprécier et avoir un avis, il faut avoir tous les éléments en connaissance. Je pense que le petit Van Der Poel, même si c'est un grand coureur, n'avait pas tous les éléments au moment où il s'est exprimé après la course. Ce qui s'est passé, la course d'Arelbeck est une course très nerveuse dans sa première partie. On sait tous qu'il y a des échappées de 10-15 coureurs qui essaient de sortir, tout simplement parce que ce type d'échappée sur cette épreuve-là a une belle chance d'aller très loin dans la course et de disputer éventuellement les premières places du classement. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La course est au kilomètre zéro. Et dès le kilomètre zéro, il y a eu beaucoup d'attaques, des vagues d'attaques de beaucoup d'équipes, contrairement aux autres épreuves où il y a toujours deux ou trois coureurs qui sortent et puis ça fait rideau et ça attend le lancement de la course une centaine de kilomètres plus loin. Là, dès le kilomètre zéro, la course a démarré. Il y a eu des attaques successives de beaucoup de coureurs, de beaucoup d'équipes, parce que tout le monde voulait être dans la première échappée. Or, il se trouve qu'au 6-7e kilomètre, on était déjà dans une course extrêmement rapide et lancée, et il y avait une multitude d'attaques et des micro-cassures en tête de peloton. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'il se produit une chute dans le peloton. Un certain nombre de coureurs réussissent à passer ou à rejoindre les tentatives d'échapper, ce qui fait qu'à l'avant de la course, ça continue à rouler très vite. Et dans ces mouvements de course, j'ai la chance d'avoir 5 coureurs qui parviennent au bout de 10-15 kilomètres à se regrouper devant. Jusque-là, rien de spécial non plus. Sauf qu'à l'arrière, quand il y a des chutes, eh bien les commissaires, et c'est là où l'interprétation est importante, les commissaires, en général, quand il y a des chutes, soit si la chute est trop conséquente, ils neutralisent la course et ils permettent à tout le monde de se remettre en situation et on redonne un nouveau départ.
D'ailleurs, il y a des coureurs qui ont protesté parce qu'ils auraient voulu que la course soit neutralisée. Je te laisse poursuivre.
Oui, alors, j'y viens. Donc, là, à ce moment-là de la course, il y a à l'avant de la course, mais on ne le sait même pas, nous, dans les voitures, et Radio Tour ne l'annonce pas. Il y a une multitude de coureurs qui se regroupent à l'avant, dont certains de mes coureurs qui ont chassé pendant 10 à 15 kilomètres pour rejoindre les premiers coureurs qui était devant le peloton. Donc là, ça se regroupe progressivement à l'avant et à l'arrière, dans le même temps, les commissaires laissent les voitures de directeurs sportifs s'intercaler entre les groupes pour permettre un regroupement quasi général du peloton, de tous les coureurs qui avaient eu un incident suite à la chute. Donc c'est ce qui s'est passé fort logiquement. Les commissaires ont été conciliants, comme ils le sont toujours sur ce genre de situation de chute, en permettant aux équipes de ramener dans le sillage et dans l'aspiration les coureurs au sein du peloton. Jusque-là, tout va bien. Donc tout le monde se regroupe progressivement. Il n'y a pas d'affolement dans le peloton. J'ai vu Van Der Poel s'arrêter faire un besoin naturel. J'ai ramené Ghana dans le sillage de ma voiture, comme je l'ai fait pour d'autres coureurs de d'autres équipes. Ce qui se passe, c'est que progressivement, les coureurs qui avaient été ralentis par la chute se sont regroupés dans le peloton principal. Sauf que personne ne savait qu'il y avait un autre peloton devant. Et quand les commissaires s'en sont rendus compte, ils n'ont pas laissé passer les voitures pour revenir derrière le premier peloton, le premier groupe de coureurs. Ce qu'ils auraient pu faire éventuellement, au moment, dans les tout premiers kilomètres, ils auraient très bien pu laisser passer les voitures de directeur sportif, jusque derrière les premiers coureurs qui étaient sortis du peloton dans les premières attaques des premiers kilomètres. Chose que les commissaires n'ont pas faite. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation de course un peu ubuesque, où on avait une quarantaine de coureurs devant, et un deuxième peloton derrière sans que personne ne le chasse. Nous, dans les voitures, on ne le savait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 20 à 30 bornes, on était 20 à 30 kilomètres plus loin après la chute. Ce qui fait que la course était lancée. Les commissaires ont considéré que la course était lancée et qu'il n'y avait pas à regrouper les coureurs distancés, ou ils n'ont pas osé le faire, plutôt, je pense.
Et donc, vous avez fait votre course, quoi.
Nous, à partir du moment où on a mis déjà 15-20 kilomètres à regrouper tous nos coureurs devant, ce qui n'était pas le cas précédemment, mais il n'y a pas d'image. Donc c'est des explications que j'ai eues de mes coureurs après l'épreuve. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a une quarantaine de coureurs qui se sont retrouvés ensemble. Il y avait des Jumbo-Visma, il y avait des gars de chez nous, il y avait des Q35 qui étaient devant. Il y avait plusieurs équipes qui avaient plusieurs coureurs, parce que nous, on avait été vigilants en début de course, parce qu'on voulait justement essayer de prendre cette échappée du départ. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une quarantaine de coureurs, avec 3 minutes d'avance, donné par le peloton quelque part, puisque la course n'avait pas été neutralisée. On n'allait quand même pas s'arrêter faire pipi sur le bas côté de la route pour redonner les 3 minutes. Donc ce qui s'est passé, la course a continué et on a fait notre course. On voulait nous arriver sur les premiers monts placés pour ne pas avoir à se battre pour le placement.
Et ce qui était le cas. Donc ce matin, on dit quoi à Mathieu Van Der Poel? On lui dit, tu te trompes de combat, c'est pas de la faute de la Groupama FDJ passé, c'est la faute de Radio Tour, en tout cas, qui n'a pas informé qu'il y avait quelqu'un.
Qui n'a pas informé ou qui n'a pas osé laisser passer toutes les voitures derrière tous les groupes. En fait, c'était un peu la panique, pour être honnête. Moi, j'étais derrière dans la deuxième voiture de direction sportive. On ne savait pas où on était, on ne savait pas combien il y avait de peloton et on ne savait pas où se situaient nos coureurs.
Dis-moi, si il n'est pas un peu nerveux, Mathieu Van Der Poel, là, depuis l'annonce de Pogacar avec Paris-Roubaix, non, ça va?
Non, il n'est pas nerveux du tout. Il est très, 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 très fort. Crevaison, pas crevaison... Je pense qu'il était imbattable et il le sera encore probablement sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Tant mieux pour lui, mais je pense qu'il s'est trompé de cible quand il a dit ça sur les ondes d'un média flamand.
Ok, bon voilà, comme ça la vérité est rétablie dans les grandes gueules du sport ce matin.
C'est sûr que quand on a la première version, on dit « Ah, les salopards, ils ont roulé sur chute », mais on n'a pas roulé sur chute et on ne roule jamais sur chute. Sauf que là, c'est les commissaires qui ont laissé la course se dérouler. en n'étant pas capable vraiment de la maîtriser à 100%. Ils l'ont maîtrisée pour partie en permettant le regroupement du parti du peloton, mais ils n'ont pas été au bout de leur action en laissant passer du voiture derrière le premier groupe.
Tu sais
ils
comment
ont considéré que la course était lancée. Voilà,
tu sais comment on est, nous, les GG, évidemment, on avait vu cette information. Toutes les GG hier m'ont écrit en me disant « Oh là là, t'as vu, Marc, les salopards !»
Ça permet de s'expliquer. Et puis, pour compléter l'information, hier, il y avait la réunion des directeurs sportifs pour la course de Gambevelgem aujourd'hui. Il n'y a eu absolument aucune allusion à cette situation de course. Tout le monde était en phase avec ce qui s'était passé.
Voilà, réhabilitons. La groupe AMA FDJ s'est fait ce
on
matin.
On n'a pas besoin d'être réhabilité. Avec Marc Mathieu.
Bon, tu vas gagner Gambevelgem. Là, il n'y a pas toutes les grandes stars. C'est bon.
Bah écoute, on va essayer de faire une belle course, une bonne course et d'être dans le classement. Un peu à l'image de ce qu'on a fait à Rolbeck, on va essayer d'être performant. Kuhn a terminé sixième à Rolbeck, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'on le réserve pour la semaine prochaine. Mais on ne désespère pas de faire une belle course avec Penouet ou Madouas ou d'autres.
Bon, bah bon courage alors pour aujourd'hui Marc, c'est à suivre évidemment sur RMC Gambevelgem et à bientôt dans les grandes gueules du sport et merci d'être venu rétablir la vérité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec ce débat, le projet NBA Europe. J'aime pas, c'est un 2 contre 2. Attention, il y a deux mastodontes qui vont affronter deux petits poussets. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.